Vous écoutez RFI, Radio France Internationale, 23h à Washington, 5h ici à Paris. 4h en temps universel, une nouvelle demi-heure d'infos avec Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Edouard, bonjour à tous. À la une, l'âge d'or de l'Amérique commence. Retour tonitruant de Donald Trump hier à la Maison Blanche. Le 45e devenu 47e président des États-Unis a annoncé toute une série de mesures. Et dans le même temps, ses opposants bravaient le froid pour une ultime manifestation. Les anti-Trump dans les rues, les pros, eux, exultent jusqu'à Jérusalem, par exemple, où une organisation américaine évangélique a organisé une grande soirée pour suivre son investiture. RFI y était. Au sommaire, également, nous reviendrons sur cette arrestation aux Philippines. Un ingénieur informatique chinois accusé d'avoir espionné des bases de l'armée et de la police. Les détails dans ce journal. Et puis nous irons au Bénin où s'ouvre aujourd'hui le procès d'Olivier Boko, l'homme d'affaires comparé aux côtés de 5 autres prévenus pour complot contre l'autorité de l'État. Avalanche de décrets cette nuit aux États-Unis, quelques heures seulement après son investiture que vous avez suivi en direct sur RFI. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, a signé toute une série de mesures allant d'accorder la grâce à la plupart des émeutiers du Capitole à la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et de l'Organisation mondiale de la santé, en passant par la déclaration de l'urgence nationale sur l'immigration illégale à la frontière mexicaine, sujet qu'il a largement abordé hier lors de son discours d'investiture.
Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets exécutifs historiques qui permettront de reconstruire les États-Unis et de revenir au bon sens. D'abord, je déclarerai l'état d'urgence à notre frontière sud. Toute personne entrée illégalement sera immédiatement retenue et nous commencerons le processus de renvoi de millions et de millions de criminels étrangers chez eux. Nous réinstaurerons mon programme « Rester au Mexique ». Je mettrai fin à la pratique du « attraper et relâcher » et j'enverrai des troupes à la frontière sud pour repousser l'invasion désastreuse de notre pays. En tant que commandant en chef, je n'ai d'autre responsabilité que de défendre notre pays des menaces, des invasions, et c'est exactement ce que je vais faire.
L'âge d'or de l'Amérique commence, à marteler le 47e président des États-Unis. Et au même moment, à quelques centaines de mètres du Capitole, les opposants manifestaient. Le reportage de Vincent Souriau et Julien Boileau.
À peine 200 personnes rassemblées par moins 10 degrés dans un parc loin de la Maison Blanche. Le dernier acte militant des organisations de gauche semble bien dérisoire face à la déferlante MAGA qui occupe tout l'espace public en ce jour d'investiture. À quelques minutes de la prestation de serment de Donald Trump, Jessica Brady, une militante féministe, se prépare à encaisser les coups de la nouvelle administration.
C'est au bord de la nausée. C'est vrai que ça a été une élection libre et transparente. On ne peut pas faire grand-chose à part se préparer à ce qui arrive. Au fond de moi, j'espère que ce ne sera pas aussi grave que tout le monde le pense. Mais je n'ai aucune confiance en Donald Trump. Les gens ont peur de ce qui va se passer aujourd'hui. Je pense qu'ils font profil bas en attendant la tempête. Pour moi, le plus inquiétant, c'est cette campagne de déportation massive. J'ai peur qu'ils arrêtent ces gens bien avant de pouvoir les expulser. C'est contraire à l'éthique, anticonstitutionnel et dans l'ensemble, tout simplement effroyable.
Horrendous overall. Les comités de soutien à la cause palestinienne, les ONG de défense des droits LGBT et les rares syndicalistes qui prennent la parole promettent de se battre. Mais ils vont affronter une montagne. À l'inverse de 2016, le camp Trump a l'expérience politique, toutes les clés du pouvoir et l'assise du vote populaire. Vincent Souriau, Julien Boileau, Washington RFI.
La colère des progressistes dans les rues de Washington, ambiance totalement différente à Jérusalem hier soir, avec cette grande soirée organisée par une organisation américaine évangélique pro-israélienne pour célébrer l'investiture de Donald Trump. Le reportage de l'envoyé spécial de RFI, Nicolas Falaise.
Il y a un orchestre et des sourires. La plupart des invités sont des Israéliens d'origine américaine. On aperçoit quelques casquettes rouges « Make America Great Again ». À la tribune, une représentante du gouvernement israélien voit en Donald Trump un authentique ami d'Israël qui comprend la menace iranienne. Puis c'est au tour de l'hôte de la soirée, Mike Evans, fondateur des Friends of Zion, les Amis de Sion, l'une de ces nombreuses organisations protestantes évangéliques américaines qui se définissent comme sionistes et rejettent toute souveraineté autre qu'israélienne sur les territoires palestiniens occupés. Le ton devient prophétique lorsque Mike Evans promet La paix entre Israël et l'Arabie Saoudite cette année, et c'est Donald Trump qui la portera. La salle applaudit le serment de Trump, diffusé en direct sur écran géant. Mais une ombre passe dans le regard de certains invités lorsqu'on évoque l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Erika est une israélo-américaine, fan de Trump, mais elle sait que ce dernier a exercé une très forte pression sur Israël pour décrocher cet accord avant son investiture. Libérer autant de terroristes pour récupérer nos otages, c'est le résultat de la négociation de Trump. C'est très effrayant. Ça me rend très nerveuse. Nicolas Falaise, Jérusalem, RFI.
Un retour de Donald Trump, félicité aussi par Benjamin Netanyahou. Il promet les plus beaux jours des relations entre les États-Unis et Israël dans les années à venir. Le Premier ministre israélien qui a déclaré hier vouloir s'assurer que la bande de Gaza ne présente plus jamais de menace pour Israël au deuxième jour du cessez-le-feu avec le Hamas. Dans l'enclave, ce sont plus de 900 camions d'aide humanitaire qui sont entrés hier d'après les Nations Unies. C'est plus que les 600 quotidiens fixés par l'accord. Il est 23h06 à Bogota, plus de 100 morts, 20 000 déplacés en moins d'une semaine. Face aux affrontements entre guérillas qui secouent la Colombie, le président Gustavo Petro déclare l'état d'urgence interne et économique. Décision qui permet de donner au gouvernement le feu vert pour prendre des mesures extraordinaires, débloquer des ressources financières, restreindre la mobilité. C'est la région de Catatumbo, dans le nord-est du pays, à la frontière vénézuélienne, qui est particulièrement touchée. Résultat, 5 000 soldats y ont été déployés et Caracas a activé une opération spécial objectif, pouvoir s'occuper des déplacés qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière. La Chine a-t-elle envoyé un espion aux Philippines pour surveiller les bases de l'armée et de la police? C'est ce que pense Manille, qui a annoncé hier l'arrestation la semaine dernière d'un ingénieur informatique alors que le torchon brûle entre la Chine et les Philippines sur fond de confrontations concernant les récifs et les eaux en mer de Chine méridionale revendiquées par les deux pays. Les explications de Yelena Tomic.
C'est dans le cadre d'une opération de contre-espionnage que le ressortissant chinois a été arrêté la semaine dernière avec deux autres complices philippins. Identifié comme Teng Yuanqing, le suspect aurait fait l'objet d'une surveillance renforcée suite à des soupçons des renseignements sur ses activités d'espionnage des infrastructures critiques, notamment militaires. L'individu, ingénieur en informatique, serait affilié à l'université d'ingénierie militaire basée à Nankin. Selon le chef de la division cybercriminalité, Teng Yuanqing était aux Philippines depuis 5 ans et faisait partie d'un groupe composé d'un financier et d'autres ingénieurs toujours en cavale. Ils opéraient via une application distante qui transmet les données hors des Philippines en temps réel. Le groupe recevait des fonds chaque semaine via des sociétés écrans. Cette deuxième arrestation de présumés espions chinois intervient dans un contexte de tensions exacerbées entre Manille et Pékin en mer de Chine méridionale, une voie navigable stratégique revendiquée dans sa quasi-totalité par la Chine. Une poudrière où se multiplient exercices militaires et risque de guerre qui suscite l'inquiétude des États-Unis, alliés historiques de Manille.
Yelena Tomic. Il est 5h08 à Cotonou, au Bénin, où s'ouvre aujourd'hui le procès d'Olivier Bocco devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'homme d'affaires et ancien bras droit de Patrice Talon est accusé de complot contre l'autorité de l'État. À ses côtés, dans le box des accusés, 5 autres prévenus, dont l'ancien ministre des Sports du chef d'État béninois Osvaldo Mecchi. Les détails avec le correspondant de RFI Jean-Luc Aplogan.
Ce procès est un épisode totalement inattendu pour les Béninois, vu ce que représentait Olivier Bocco dans le dispositif Talon. Il était surnommé l'alter ego ou parfois vice-président. Coup de tonnerre, le 24 septembre, Cotonou se réveille avec la nouvelle de son arrestation. Le lendemain, la justice l'accuse d'avoir planifié un coup d'État. 4 mois après, au terme de l'instruction et des recours infructueux de ses avocats, il est jugé avec Oswald Romecki, ancien ministre des Sports, et 4 autres prévenu pour complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats. Selon le procureur spécial de la Criette, le chef de la garde présidentielle avait été approché par les mises en cause pour l'exécution du complot. L'officier est libre. Toujours selon lui, la police a saisi au domicile de l'ancien ministre des Sports 1,5 milliard de francs CFA le jour de de son arrestation. Un avocat du collectif a déclaré il y a quelques jours que Olivier Bocco est impatient de faire face à ses juges et il a ajouté « le dossier se défend tout seul ». Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et aujourd'hui, c'est aussi l'ouverture du procès de Rodrigue Petitot en Martinique, surnommé le R, le leader du mouvement contre la vie chère, est incarcéré depuis le mois de décembre et son intrusion dans la résidence préfectorale martiniquaise. Un procès qui devrait permettre de mettre en lumière la crise politique et sociale qui secoue l'île. La correspondance à Fort-de-France pour RFI de Peggy Saint-Ville.
En novembre dernier, quatre membres du RPRAC menés par Rodrigue Petitot ont pénétré dans la résidence du préfet de la Martinique pour demander une audience à François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer du gouvernement Barnier. Ils souhaitaient exprimer leur agacement face à, selon eux, un manque de considération de l'État. Cet acte a divisé. Une provocation dangereuse pour certains, un geste de résistance légitime pour d'autres. Le préfet, deux policiers et trois autres agents ont porté plainte menant à l'arrestation de Petitot. La justice veut établir les responsabilités des accusés qui se défendent en plaidant une action non violente autorisée par les forces de l'ordre présentes à l'entrée. En raison du nombre élevé de prévenus, l'audience durera 2 jours. Plus qu'une simple affaire pénale, ce procès soulève des questions sur l'ordre public et la liberté d'expression. Il entend répondre au mouvement revendicatif, source de troubles sociaux. Un dispositif policier important est attendu ainsi que de nombreux manifestants. Peggy Saint-Ville, Fort-de-France, RFI.
Et puis alors que l'année 2024 a été la plus chaude jamais mesurée depuis 1850, 2025 s'annonce comme cruciale pour l'avenir des glaciers. Les Nations Unies ont même décidé d'en faire l'année internationale pour leur préservation. Une mission quasi impossible, alors la nécessité porte désormais sur le prélèvement d'échantillons. Les explications à Genève de Jérémy Lanche.
Un chiffre résume à lui seul l'ampleur de la fonte des glaciers. En Suisse, on estime qu'ils ont perdu 10% de leur masse rien qu'en 2022 et 2023. Des glaciers qui disparaissent, c'est entre autres une mémoire qui disparaît, explique le glaciologue Jérôme Chaplat. Le professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne est aussi président de la fondation Ice Memory. Son objectif, conserver les carottages d'au moins 20 glaciers dans le monde.
Quand on produit un cylindre de glace d'environ 10 cm de diamètre, on peut raconter l'histoire du volcanisme, par exemple. On peut raconter l'histoire de l'activité solaire. On peut raconter l'histoire des pollutions d'origine humaine. Donc c'est vraiment des espèces de bibliothèques naturelles.
Une bibliothèque pour décoder le passé et aussi préparer le futur. Les glaciers renferment des quantités de micro-organismes dont on ne sait presque rien, mais qui pourraient nous permettre de créer de futurs médicaments, par exemple, à condition de les sauver.
On vise un glacier qui est à la frontière entre le Canada et l'Alaska, où on a observé un réchauffement de 5 degrés dans le glacier au cours des derniers 10 ans. On sait que dans une décennie, probablement, le glacier sera devenu impropre à ce type d'études.
Mais où stocker ces carottes de glace? Pas en Europe, mais en Antarctique, sur la base franco-italienne de Concordia. Température annuelle moyenne, moins 55 degrés. Parfait pour créer la première banque mondiale des glaciers. Elle doit accueillir les premiers échantillons, si tout va bien, d'ici à la fin de l'année. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Il est 23h13 à Washington, 5h13 à Paris. Une heure de moins en temps universel.
Alban Le Prince.
Merci d'écouter RFI. Au sommaire de ces 20 prochaines minutes, nous allons évidemment prendre la direction des États-Unis. Quelques heures seulement après l'investiture de Donald Trump, le nouveau président américain qui, à peine installé dans le bureau ovale, a pris toute une série de décrets, décrets qu'il avait promis. Que faut-il retenir de son discours inaugural? Vous l'entendrez. Alors la question ce matin, au lendemain de son retour à la Maison-Blanche, c'est quelles conséquences pour l'Union européenne? Nous tenterons d'y répondre. L'invité culture du jour joue sur les clichés. Le Suisse Gabriel Sparti propose en ce moment une pièce de théâtre au Théâtre de la Bastille à Paris. Une comédie satire de son pays historiquement neutre. Dans le Conseil Santé du jour, Caroline Paré et son invité parleront de BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie chronique due au tabagisme dans 80% des cas. Et puis on terminera comme chaque matin en musique avec le choix de la programmation de RFI. Aujourd'hui, c'est Bambi avec son titre Don Dada. C'est désormais chose faite. Vous l'avez suivi en direct hier sur RFI. Donald Trump a été investi 47e président des États-Unis. Un retour en trombe pour le milliardaire salué par des milliers de fans réunis dans une grande salle de Washington où le nouveau chef d'État a signé toute une série de décrets. État d'urgence national à la frontière avec le Mexique. Grâce pour des centaines d'assaillants du Capitole le 6 janvier 2021. Report de 75 jours pour la loi interdisant TikTok. Ou encore retour en arrière hier sur le retrait de Cuba de la liste noire des pays soutenant le terrorisme. Une série de mesures choc prises juste après son discours inaugural d'une trentaine de minutes dans la rotonde du Capitole, dans lequel il s'est posé en artisan de la paix. Je vous propose d'en écouter quelques extraits.
The President of the United States, the Honorable Donald John Trump.
Durant ces huit dernières années, j'ai dû faire face à des défis comme aucun autre président dans nos 250 ans d'histoire. Le chemin n'a pas été facile, je peux vous le dire. Ceux qui ont voulu faire barrage à notre cause ont tenté de prendre ma liberté et ma vie. Je le pensais alors et je le crois encore plus aujourd'hui. J'ai survécu pour une raison. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Great again. Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets exécutifs historiques qui permettront de reconstruire les États-Unis et de revenir au bon sens. D'abord, je déclarerai l'état d'urgence à notre frontière sud. Toute personne entrée illégalement sera immédiatement retenue et nous commencerons le processus de renvoi de millions et de millions de criminels étrangers chez eux. En tant que commandant en chef, je n'ai pas d'autre responsabilité que de défendre notre pays des menaces, des invasions, et c'est exactement ce que je vais faire.
Is exactly what I am going to do.
Today I will also... Je vais également déclarer une urgence énergétique nationale. Nous allons forer encore et encore.
Drill, baby, drill.
Nous avons la plus grande réserve de gaz et de pétrole au monde, et nous allons l'utiliser. Nous allons mettre aussi un terme au pacte vert en annulant le décret sur les véhicules électriques. Autrement dit, vous pourrez acheter la voiture de votre choix.
Car of your choice.
Nous construirons une société qui ne se soucie pas de la couleur de la peau, mais qui sera fondée sur le mérite. À partir d'aujourd'hui, dans la politique officielle du gouvernement des États-Unis, il n'y aura que deux genres, masculin et féminin. Les États-Unis vont de nouveau devenir une nation de progrès, qui accroît sa richesse et étend ses territoires. Et nous enverrons nos astronautes planter notre bannière étoilée sur la planète Mars. L'Amérique va de nouveau être respectée et admirée. À partir d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont un État libre, souverain et indépendant. Et rien ne pourra se mettre en travers de notre route, car nous sommes Américains. L'avenir nous appartient et notre âge d'or ne fait que commencer.
And our golden age has just begun.
Alors évidemment, après le retour triomphal au pouvoir de Donald Trump, les réactions internationales se sont multipliées, la grande majorité pour le féliciter. À l'image de Vladimir Poutine, le président russe qui s'est dit ouvert au dialogue sur l'Ukraine, question qui sera aussi abordée avec la Turquie sur Recep Tayyip Erdogan. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a pour sa part promis les plus beaux jours des relations entre Israël et les États-Unis. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, se déclare de son côté prêt à coopérer pour aboutir à une solution à deux États. Quid des dirigeants européens à présent? Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
Correspondant de RFI à Bruxelles. Évidemment, les chefs d'État et de gouvernement européens ont eux aussi félicité Donald Trump, mais les messages ont été assez sobres, neutres, en raison des craintes sur les conséquences de son retour.
Oui, alors la seule chef de gouvernement européenne qui était invitée à l'investiture, c'est la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Elle se contente de prédire un renforcement des liens italo-américains, mais elle avait en fait déjà donné des gages de bonne entente en négociant avec Elon Musk un contrat de cybersécurité avec SpaceX pour l'Italie, un contrat qui pourrait s'élever à 1,5 milliard de dollars. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, n'a pas fait le déplacement à Washington de son côté, mais il fait part de son enthousiasme, ça augure selon lui, d'un âge d'or des relations avec les États-Unis, un âge d'or qui va permettre aussi aux patriotes de droite, je cite, d'occuper Bruxelles.
Giorgia Meloni et Viktor Orban, qui sont certes proches de ces idées, pour les autres, c'est plutôt la méfiance qui domine.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, insiste en particulier sur la nécessité du partenariat transatlantique, tandis que le chancelier allemand Olaf Scholz éprouve le besoin de souligner la force et l'unité de l'Union européenne. La seule annonce concrète qui touche véritablement directement les Européens, c'est la nouvelle sortie des accords de Paris, décrite par le député européen Pascal Canfin comme une nouvelle attaque contre les politiques climatiques et le pacte vert de l'UE. Mais la crainte immédiate des Européens, c'est la possibilité d'une instauration de droits de douane sur leurs exportations vers les États-Unis. Et le commissaire européen aux affaires économiques avertit que l'Europe est prête à se défendre.
Et Pierre, on commence d'ailleurs depuis la semaine dernière à avoir une idée des leviers que pourrait utiliser l'Union européenne pour faire face à une éventuelle augmentation des droits de douane.
Oui, on a vu vendredi dernier la Commission européenne étendre son accord de libre-échange avec le Mexique. C'est un signal clair qui a envoyé à Donald Trump que l'Europe est prête à agir dans la zone économique qu'il considère comme son vassal potentiel, puisqu'il confirme vouloir imposer des droits de douane de 25% à l'encontre à la fois du Mexique et du Canada. Parallèlement, la Commission a recensé depuis l'élection de Donald Trump tous les domaines qui pourraient être affectés et tous les domaines où l'UE pourrait imposer les droits de douane en rétorsion. Alors maintenant, Donald Trump propose d'acheter du pétrole ou du gaz naturel américain. Ça, c'est la dernière proposition qu'il a faite à l'Europe pour éviter cette guerre commerciale. Et la Commission l'envisage d'ores et déjà pour beaucoup. L'idée serait de passer un marché avec Donald Trump. L'Europe accepterait de remplacer totalement les Américains pour la défense du continent face à la Russie. Mais dans ce cas, elle ne doit pas subir une guerre commerciale avec les États-Unis parce qu'elle n'en aurait pas les moyens.
Merci Pierre Benazet, correspondant de RFI à Bruxelles. C'est un mythe bien connu en Suisse, la neutralité. L'invité culture du jour, Gabriel Sparti, jeune metteur en scène, en joue dans MV, ce qui veut dire mal du pays en allemand. Une pièce dans laquelle les personnages hésitants enchaînent les banalités et se retrouvent gênés lorsqu'il s'agit de donner leur avis personnel. Un spectacle comique à retrouver en ce moment au Théâtre de la Bastille à Paris. Gabriel Sparti, l'invité culture de Muriel Mahalouf.
Gabriel Sparti, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes Suisse et vous avez choisi de représenter votre pays dans une forme de satire. Comment c'est parti, ce spectacle ?
Je voulais travailler un peu sur l'histoire de mon pays et de la politique de mon pays et voir, un peu fouiller ça. Et petit à petit, en fait, est venue certaines scènes qui, il s'avère, étaient drôles.
Alors, le rire arrive à cause de la situation des acteurs, en fait. Ils sont quatre, ils sont sur scène extrêmement gênés, mal à l'aise, mais avec un sourire tout le temps, un peu crispé, une certaine gentillesse, une difficulté un peu à exister, presque à vivre, on dirait presque des momies, quoi. Qu'est-ce que ça symbolise, cette extrême gentillesse, quelque part sans vouloir jamais se mouiller ?
Pour moi, c'était trouver un moyen de trouver une situation théâtrale et un rapport à l'enjeu du personnage qui est en résonance avec des signes politiques du pays, précisément, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer quand un Suisse rentre sur un plateau ? Qu'est-ce que ça crée, un vrai Suisse ? Et du coup, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. C'est-à-dire, je veux me montrer avec une façade propre. Je veux me montrer en tant que bon être humain. Et en même temps, j'ai une extrême peur d'être découvert tel que je suis vraiment. Donc, il y a cette peur-là qui joue en même temps avec la façade. Et là, du coup, face à un public, il y a être impressionné par le public et il y a vouloir plaire au public en même temps. Mais du coup, ces différentes tensions-là, elles amènent à une sorte d'immobilité, quoi, pour moi. Et du coup, une impasse. Il y a un endroit là qui est dénoncé. Après, alors, à qui ça profite toute cette armature idéologique, sociale, qui tient dans l'illusion d'une démocratie ? C'est au grand tenancier. Bon, de nouveau, là, c'est là où ça va être peut-être un peu cliché, mais au grand tenancier et à ceux qui profitent du statu quo européen. Donc, qui sont les grandes fortunes et de plus en plus aussi l'extrême droite qui monte.
Il y a cette phrase qui est très drôle au milieu de la pièce. La Suisse, c'est mourir au grand air. Il y a aussi la question du paysage qui est très importante.
Et ben là, donc il y a cette phrase qu'on a entendue à Genève qui est de Thomas Bernhardt et qui dit « Les beaux paysages effritent le cerveau ». il y a quelque chose de ça, quoi. Le rapport au paysage, c'est tout sauf anodin, quoi. C'est pas rien d'être hypnotisé chaque jour face à la beauté d'un paysage qui finit par nous suffire, quoi. Et qui finit par même nous bloquer la vue d'autres choses. Quand je reviens en Suisse, à chaque fois que j'en pars, j'ai une sorte de nostalgie ou de mélancolie, justement, de cet endroit que j'ai rejeté. Je pense qu'un endroit vraiment, vraiment puissant à cet endroit-là, sur les paysages, le cadre esthétique dans lequel on se situe, et donc mourir au grand air, oui. Enfin, si on se laisse aller à cette facilité-là, la chose qu'on peut raconter de notre vie, c'est finalement je suis mort au grand air.
Parce que la Suisse anesthésie.
Je sais que maintenant, en étant dans un autre cadre, je sais que j'ai vécu dans un cadre où l'apolitisme était une politique, quoi. Alors ça ne se place jamais quelque part, et donc on peut jamais être en réaction à quelque chose. Enfin bref, mais ça c'est vraiment dans le développement et ma région. C'est sûrement lié à ma région aussi, hein, mais. Yeah. Qu'est la Riviera, du coup, la Riviera et le canton de Vaud. Et donc, cette distance-là a permis d'avoir une vue, disons. Ça, c'est sûr. Ouais. Voilà.
Merci beaucoup, Gabriel Sparti.
Merci à vous.
Et le spectacle de Gabriel Sparti, MV, Mal du pays en allemand, est à retrouver jusqu'à vendredi au Théâtre de la Bastille à Paris. Place à partir de 12 euros.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et aujourd'hui, on essaye de comprendre la BPCO ou bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie respiratoire chronique qui se manifeste par l'atout, un essoufflement, mais aussi une obstruction permanente des voies aériennes, sorte de bronchite permanente. Et pour en parler, Caroline Paré reçoit le professeur Bruno Crestani.
Professeur Bruno Crestani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de pneumologie à l'hôpital Bichat-Claude Bernard à PHP à Paris. Quelles expositions ou habitudes du quotidien favorisent le risque de BPCO, cette maladie respiratoire chronique ?
Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, hein. Le risque majeur, il est lié au tabac. Fumer du tabac, c'est vraiment le facteur de risque principal en France et dans le monde pour acquérir une BPCO. Alors, il y a d'autres risques, bien sûr. On peut avoir une BPCO en n'ayant jamais fumé, ce qui est injuste. Alors, dans quel cas? Eh bien, par exemple, lorsqu'on est exposé sur son lieu de travail, si on est, par exemple, éleveur et qu'on travaille dans une enceinte fermée, on peut respirer des particules qui vont entraîner une inflammation du poumon et donc une BPCO. Mais également, l'autre chose, c'est la pollution domestique. Lorsque je suis à la maison, dans une enceinte fermée, que je fais par exemple brûler du bois, de la biomasse, la fumée, si elle ne s'évacue pas, va entraîner une BPCO potentiellement. Mais je répète, le facteur principal, c'est le tabac. Il y a un petit rôle aussi pour la pollution atmosphérique extérieure, mais malheureusement, on peut pas y faire grand-chose soi-même.
Merci professeur Crestani. Vous êtes aussi président de la Fondation du Souffle, Priorité Santé. C'est à 9h10, 1h10, temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Tout est bien noté. On termine cette demi-heure comme tous les jours en musique. Aujourd'hui, le choix de la programmation de RFI, c'est Bambi, figure devenue incontournable de la scène dancehall, l'artiste féminine la plus écoutée en Guyane. Elle nous propose son dernier titre, Don Dada.
Aya.
I bring some outside with my good dada. When they see me bust a wine, they say, oh la la. Turn it round, run it down like hot grabber. Hot, hot grabber. I got diamonds on my head. And your man follow me. Cause I'm way too bad. I give no apology. Hot, hot grabber. Big mama. Good dada. Diamonds on my head. Diamonds on my head. Enough drink, enough gal, enough vibes. You say you love me, bring me chicken and fries. You love life, if I'm in your love life. Five, five, big fries, I'm fire. I'm fire. I'm fire. I'm fire. Five, five, six, five, I'm fire. Dun da da, I bring drama outside with my go da da. When they see me bust a wine, they say oh la la. Turn it round, run it down like hot grabber. Hot, hot grabber. I got diamonds on my head. And your man follow me. Cause I'm way too bad. Give no apology. Hot rubber. Big mama. What da da. Diamonds on my head. Diamonds on my head. Hot rubber. Big mama. What da da. I got diamonds on my head. Chest ice. You can see the glare. Bring it over here. We throw that money in the air. Money in the air. Dum da da. I bring drama outside with my go da da. Bossa wine, them say, oh la la. Turn it round, burn it down like hot grabber. Hot, hot grabber. I got diamonds on my head.
C'était Bambi avec Don Dada sur RFI. Restez bien avec nous dans moins d'une minute. C'est le retour de l'actualité africaine et c'est avec Sébastien Duhamel.
Ce mardi sur RFI.
Où nous mènera la seconde révolution quantique?
Autour de la question Caroline Lachowski.
Question ouverte par et avec Alain Aspect, prix Nobel de physique, pour avoir démontré et expérimenté l'impossible, la non-localité et l'intrication quantique. Le professeur Alain Aspect est notre invité en direct autour de son ouvrage « Si Einstein avait su ».
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.